Bonjour Jean-François Guéraud.
Bonjour madame.
D'abord, pour bien comprendre, à quel moment cette mafia italo-américaine monte-t-elle en puissance aux États-Unis ?
Alors, pour comprendre l'importance historique de la mafia italo-américaine, il faut rappeler qu'entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, il y a à peu près 1 million d'Italiens pauvres issus du sud de l'Italie, du Mezzogiorno, qui émigrent aux États-Unis pour des raisons économiques. Et ces Italiens vont vivre enclavés dans des ghettos au sud des États-Unis, à Nouvelle-Orléans et sur la côte est. Avec ce phénomène migratoire, va être également apporté à une anthropologie, à un terreau social qui était celui d'une criminalité organisée très spécifique dans le sud de l'Italie, à la fois la Camorra et Cosa Nostra. Et donc la mafia sicilienne va se réimplanter aux États-Unis et puis petit à petit, elle va s'américaniser, elle va prendre l'éthos des États-Unis. Et dans les années 30, elle va connaître un phénomène de modernisation sous l'impulsion de plusieurs hommes de grand talent, Charles Lucchi Luciani ou Salvatore Maranzano, pour se transformer en une grande entreprise multinationale. Et donc, dans les années 30, cette révolution managériale va permettre à Cosa Nostra de commencer à parler d'égal à égal avec le politique, et ce, d'autant plus facilement que la fameuse loi sur la prohibition de 1919 à 1933 va conférer à la mafia italo-américaine un pouvoir financier absolument gigantesque. Et donc, quand on cumule cette révolution managériale et ce nouveau pouvoir financier, on comprend comment la mafia va faire de sa relation avec le pouvoir politique une relation d'égal à égal.
Cette mafia va commencer à nouer des liens profonds avec les politiques, notamment avec les démocrates dans un premier temps. Alors pourquoi plus les démocrates ?
Alors une raison de fond, c'est que les Italiens qui migraient aux États-Unis votaient majoritairement démocrates. Et donc la mafia italo-américaine disposait dans une logique clientéliste d'un bloc de voix qu'elle pouvait négocier contre de l'impunité. Elle sait que l'élection à la fin des années 20 se fera au sein du Parti démocrate entre deux candidats. Et que va faire la mafia italo-américaine ? Comme à chaque fois, elle va miser sur les deux.
Alors sans être décisif, hein, vous l'expliquez bien, mais elle va jouer un rôle précieux dans la nomination de Roosevelt à la primaire démocrate face à Al Smith.
Voilà, il faut toujours éviter les logiques un peu complotistes ou déterministes. La mafia italo-américaine gérait donc des blocs de voix de manière très importante, mais ce n'est pas elle pour autant qui faisait totalement l'élection. Et en fait, elle a commencé à observer la manière dont se faisait l'investiture au sein du Parti démocrate. Elle a regardé entre les deux tours qui était en tête. Et puis, quand elle a compris que c'était Roosevelt qui était en tête, eh bien, elle lui a apporté son bloc de voix. Elle a misé sur le meilleur cheval. Est-ce que ça a été déterminant ? Ça, on ne le saura jamais. En tous les cas, les mafieux s'en sont persuadés. Ils ont été persuadés qu'ils avaient fait l'élection de l'investiture de Franklin Delano Roosevelt au sein du Parti démocrate.
Est-ce que l'objectif de cette mafia, à l'époque, c'est de prendre le pouvoir ?
Non, aucune organisation criminelle ne veut prendre le pouvoir. Tout ce qu'elle veut, c'est le neutraliser. C'est-à-dire agir dans l'ombre pour obtenir un certain nombre d'avantages. Une organisation criminelle, c'est comme un lobby capitalistique, comme l'industrie de l'armement ou de la pharmacie. Elle est là pour faire avancer ses intérêts dans l'ombre, dans le couloir, dans le hall, point à la ligne.
Et donc il y a une contrepartie. Est-ce que dans le cas de Roosevelt, il y a eu une contrepartie claire ? Finalement, c'est sur ce point, on le sent, hein, que vos recherches sont les plus compliquées.
Oui, vous avez entièrement raison. Il faut être extrêmement prudent. Vous savez, le pire défaut ou le pire vice qu'un historien pourrait commettre, ce serait celui de remplir les blancs, ce que l'on ne sait pas. Eh bien, très souvent, ce renvoi d'ascenseur, cette contrepartie, on ne la connaît pas. On a l'impression que Franklin Delano Roosevelt a été suffisamment intelligent ou suffisamment rusé pour ne jamais avoir eu besoin de renvoyer l'ascenseur en tant que tel. Mais sait-on tout ?
Elle est vue, cette mafia, à l'époque, comme un instrument pour les politiques. Elle joue un rôle, elle va jouer un rôle, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle contrôle les ports, les docks et puis ceux qui y travaillent.
Oui, c'est exactement cela. Alors il faut comprendre que les émigrants de fraîche date, c'est vrai dans tous les pays à toutes les époques, font toujours les métiers les plus pénibles. Et c'est ce qui se produit aux États-Unis sur les docks. Il y a évidemment parmi les ouvriers de manière majoritaire les migrants de souche les plus récentes, donc principalement des migrants irlandais, italiens et allemands. Et sur les docks à New York en particulier, ce sont surtout les migrants italiens qui font les métiers les plus nombreux et les plus sensibles. Et à travers ces migrants, la mafia italo-américaine, et plus exactement à travers les syndicats des dockers, le longshoremen, la mafia italo-américaine dispose d'un pouvoir quasiment absolu. Or, pour gagner la guerre, le pouvoir fédéral et en particulier les services de renseignement de la Navy savent très bien qu'il faut contrôler les docks. Le commerce à l'époque, comme c'est vrai aujourd'hui, passait à 80-90% par les docks. Donc il fallait absolument éviter les sabotages et il fallait surtout pouvoir préparer les futurs débarquements en Sicile et en Afrique du Nord. Donc les services de renseignement de la Navy vont tout simplement voir ceux qui contrôlent les docks dans une logique pragmatique, réaliste, froide, certains diraient cynique, en leur demandant tout simplement de les aider à lutter contre l'espionnage italien ou allemand, ce qui n'était pas un fantasme, puisque cette situation s'était connue lors de la Première Guerre mondiale.
Alors on va avancer un peu dans le temps, Jean-François Guéraud. Vous évoquez bien sûr aussi la présidence Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, qui se retrouve, si on essaye de résumer, coincé entre les activités de son père et celles de son frère Bobby Kennedy, ministre de la Justice. Il est pris, vous expliquez, dans un étau mafieux.
Il est pris dans un étau mafieux et on pourrait même dire que c'est une tragédie grecque avec trois acteurs. Vous avez Joe Kennedy, le patriarche, le chef de la dynastie, qui lui, depuis les années 30, entretient des relations d'affaires et d'amitié avec plusieurs familles de la mafia italo-américaine. Et comme il souhaite que l'un de ses fils devienne président des États-Unis, dès les années 50, il passe un pacte avec plusieurs de ses familles. Et ces faits sont tout à fait bien documentés aujourd'hui. En gros, vous m'aidez à les lire et lorsque mon fils sera élu président des États-Unis, eh bien la politique d'impunité continuera. Et puis il y a ses deux fils. Il y a Robert Kennedy qui, depuis les années 50, est un croisé de la lutte anti-mafia parce que Robert Kennedy a compris quelque chose de profond, de grave. Il comprend que la société, la vie économique, sociale et politique américaine est minée de l'intérieur par la corruption, que la mafia italo-américaine contrôle plusieurs des très grands syndicats américains, deux en particulier, le syndicat des Teamsters, donc des camionneurs, et le syndicat des dockers, les longshoremen. Et donc, dès les années 50, il mène une croisade anti-mafia. Et puis, il y a l'autre fils, John Fitzgerald Kennedy, qui est un homme élégant, beau, intelligent, mais très insouciant, et qui va entretenir des relations extrêmement douteuses et improbables, se mettant en situation de grande vulnérabilité, avec tout un tas d'associés de la mafia italo-américaine, dont le plus connu est évidemment Frank Sinatra, mais ça n'est pas le seul.
Vous consacrez un chapitre à l'assassinat de Kennedy, vous ne résolvez pas l'enquête, mais vous présentez toutes les traces, tous les indices que la mafia a laissés et qui rendent crédible la thèse d'un assassinat par la mafia en se servant au passage de la CIA.
Oui, j'ai voulu dans ce chapitre spécifique faire quelque chose qui n'avait pas été réalisé jusqu'à présent, c'est-à-dire refaire un point sur toutes les traces, tous les indices, tous les faits, les témoignages qui permettent en effet d'apporter une forme de crédibilité à cette hypothèse d'un complot mafieux. Et cela me semble d'autant plus important qu'il traîne encore dans les milieux américanistes en Europe et en particulier en France l'idée selon laquelle l'assassinat de Kennedy serait le fait d'un tireur solitaire. Cette thèse ne tient pas, elle ne tient plus. Beaucoup d'historiens et de journalistes aux États-Unis l'ont complètement déconstruite depuis longtemps. Et la thèse du complot, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une association d'individus, une bande organisée, est la thèse la plus crédible. Tout le problème est de savoir d'où pouvait provenir ce complot. Et il reste aujourd'hui donc l'hypothèse de la mafia, donc d'un crime qui aurait été commandité, exécuté par la mafia italo-américaine, qui est l'hypothèse en effet la plus solide, avec, et c'est là où j'ai essayé d'apporter une patte analytique assez nouvelle, en montrant qu'en réalité, sur le terrain, il y a peut-être eu, à la marge, quelques soldats perdus de la CIA qui ont pu participer à ce complot. C'est le marigot de la lutte contre Fidel Castro, qui est en fait la lutte contre le communisme à Cuba depuis 1959, qui est la grande affaire des États-Unis dans les années 50-60.
Alors, ce qui est passionnant dans votre livre, Jean-François Guéraud, c'est que la mafia, au fait de sa puissance, elle est partout. Elle est dans les syndicats, qu'elle a largement contribué à constituer d'ailleurs. Elle est à Hollywood, moyen d'influence très puissant. Finalement, est-ce qu'un candidat à la Maison-Blanche pouvait, dans ces décennies, faire sans la mafia?
L'être humain a toujours le choix. Certains n'ont pas été touchés. C'est le cas en particulier d'Eisenhower ou de Gerald Ford ou de Jimmy Carter. Mais les 10 autres sont en odeur de mafia. Et ça s'explique assez bien par le mode de constitution des élites politiques américaines. Et du fait de la centralité de l'argent, il est très difficile de passer à côté de la mafia. Non seulement la mafia a dominé les marchés criminels, des marchés majeurs qui lui procuraient beaucoup d'argent, mais surtout par des dispositifs de blanchiment, elle a eu un rôle central dans des marchés économiques légaux, dans le domaine du BTP, des casinos, du showbiz et dans même beaucoup d'autres domaines beaucoup plus sous-estimés.
Alors Jean-François Guéraud, la puissance de cette mafia italo-américaine, elle décline tout de même à partir des années 80, elle n'a pas disparu aujourd'hui.
Non, alors elle décline pour plusieurs raisons. La première tient au fait que les Italo-Américains sont sortis de leur ghetto et donc de la soumission culturelle et linguistique dans laquelle ils se trouvaient. Donc ils ont pu s'extraire de cette domination qui était très, très physique. Deuxièmement, il faut voir qu'un certain nombre d'acteurs criminels autres et nouveaux sont venus concurrencer la mafia sur son terrain, sur ses marchés criminels. Et puis, il y a certainement une troisième raison, c'est qu'à partir des années 70 et surtout 80, après la mort de John Edgar Hoover en 1972, il y a une réaction, enfin, de l'État fédéral et du FBI. Pendant 60-70 ans, l'État fédéral a décidé de ne pas lutter contre la mafia. Mais à partir du moment où l'État fédéral a commencé un petit peu à vouloir lutter contre la mafia, eh bien, les politiques qui avaient des relations de consanguinité, voire de symbiose avec la dite mafia, ont commencé à s'en éloigner pour des raisons de risque, tout simplement.
Actuellement, avec quel questionnement vous suivez cette campagne présidentielle aux États-Unis ?
Je consacre un très long chapitre à Donald Trump, évidemment, qui est un exemple typique d'homme en odeur de mafia. On sait très bien qu'il a réalisé une grande partie de sa fortune grâce à la mafia. Lui a fait sa fortune à New York dans le BTP et ensuite dans le jeu, dans les New Jersey. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute. S'il est à nouveau réélu président des États-Unis, son passé en odeur de mafia sera quand même un vrai sujet.
Et Joe Biden ?
Alors, on peut avoir quelques doutes sur le début de sa carrière, dans sa proximité avec le fameux syndicat des Teamsters au début des années 70, totalement sous la coupe de la mafia italo-américaine. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments très probants le concernant. Il y en a un petit peu plus concernant son fils, mais là, l'actualité nous en dira certainement plus en 2024.
Merci Jean-François Guéraud.
Merci madame.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, La mafia et la Maison Blanche, aux éditions Plon.